Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Même si la crise sanitaire est loin d'être finie et que le déconfinement ne sera que la première phase d'un lent retour à la vie normale, le monde d'après qui se profile, quel sera-t-il? La question est dans tous les esprits et concerne tous les pans de la société. Tirer les enseignements du virus, envisager le monde de demain. Dans Religion du Monde, nous interrogeons ce dimanche des acteurs de la société civile engagés au nom de leur foi, ainsi que des observateurs avisés du fait religieux. Nous ouvrons avec Laurent Landette, directeur délégué du Collège des Bernardins à Paris et ancien modérateur général de la communauté de l'Emmanuel. Laurent Landette, bonjour.
Bonjour.
Alors, plusieurs bonnes raisons pour vous entendre sur ce monde d'aujourd'hui et celui d'après la crise sanitaire. Vous connaissez la question du soin et celle de la fragilité par votre formation d'infirmier. Et puis, il y a votre regard de chrétien sur la société exercée au sein donc de la communauté de l'Emmanuel, je le disais, et aujourd'hui au Collège des Bernardins. Et puis, je précise qu'à l'automne 2018, vous avez été nommé par le pape François membre du dicaster des laïcs de la famille et de la vie. Alors, une première question, Laurent Landette. Est-ce que l'expression « le monde d'après », vous y adhérez?
C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur ce terme. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à adhérer à des slogans, en fait, qui veulent tout dire et qui veulent rien dire. Voilà, que l'on recycle de média en média, de jour en jour, et finalement, personne ne comprend ce que ça veut dire. Oui, en fait, c'est vrai que nous vivons une crise majeure. Et c'est certain que nous allons, il va y avoir des conséquences forcément sur nos modes de vie, sur nos manières d'être, sur nos relations avec nos contemporains, sur nos manières aussi de consommer certainement. Mais moi, il me semble que, non pas pour transformer ce slogan, le monde d'après, en un autre slogan, mais je me dis que si nous sommes déjà dans un monde avec, ça serait pas mal. Parce qu'il s'agit d'être avec les gens, d'être avec les autres. Cette crise nous aura coupés des autres, précisément. Nous aura isolés pour certains, et de manière très dure pour certains d'entre nous. Et moi, je pense que ce vers quoi nous devons aller dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans ce futur, eh bien, c'est ce avec les autres. Cette situation dramatique, en fait, ne nous est pas isolée irrémédiablement, et que nous ne nous réfugions pas derrière nos écrans d'ordinateur. Moi, je suis un peu terrifié quand je vois des gens qui font des apéros Skype, etc., même si c'est très bien pour le moment, parce que forcément, c'est un moyen. Moi, j'ai un papa qui est en maison de retraite, on essaie de communiquer avec lui de cette manière, et je pense que c'est quand même important. Mais il ne faudrait pas qu'on se résolve à cette situation. Il ne faudrait pas que, justement, ce monde qui vient nous enferme et nous propose une manière d'être cloîtrés sur nous-mêmes, refermés sur nos petits problèmes, et puis que cette relation à l'autre, cette relation au frère, cette relation à l'ami, se résume à des coups de fil ou à des visioconférences, comme on dit. Donc je crois que l'enjeu vraiment de ce monde qui vient, c'est d'être un monde avec les autres.
Vous disiez être soucieux des conséquences psychologiques de ce confinement, notamment avec un certain nombre d'addictions.
Oui, je pense que on ne mesure pas encore l'effet de ce confinement. Alors certains, c'est vrai, ont eu la chance et ont été favorisés, ont pu aller se protéger dans des lieux un peu privilégiés, et j'allais dire tant mieux pour eux. C'est, voilà. Mais beaucoup de nos contemporains sont restés dans des appartements exigus, voire insalubres, et puis se sont peut-être réfugiés dans des comportements, dans des addictions, un peu pour échapper. Avec des paradis un peu artificiels à cette souffrance qui était forcément imposée. et on comprend très bien ces nécessités de confinement. Mais moi, j'entendais récemment que voilà que les accès aux sites pornographiques, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, c'est quand même assez emblématique que les tabacs soient restés ouverts. Ça veut bien dire, je dis pas qu'il fallait pas qu'ils le soient, mais enfin, dans tout cas, c'est symptomatique. Et cela montre qu'en fait, beaucoup vont rester dans cette blessure et il faudra vraiment aller vers eux et vraiment les sortir de ces addictions parce que en fait finalement c'est encore un moyen de se refermer sur soi-même et de ne pas aller vers les autres. En fait, toutes ces questions d'addiction, en fait, finalement, compulsives et qui sont quand même dramatiques et qui touchent de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes, qui nous proposent une banalisation des gestes de l'amour et de la vie, quoi. Donc je pense que là, oui, il y a des enjeux, il y a des conséquences, et des enfermements, des emprisonnements, des confinements psychologiques qui vont pouvoir durer, qui pourraient s'installer. Et je pense qu'il faudra que nous soyons très, très vigilants vis-à-vis notamment des jeunes, et des moins jeunes certainement. Mais je crois qu'il y a un enjeu éducatif de libération totale par rapport à ce confinement. Parce qu'il ne s'agit pas de ressortir, de pouvoir sortir dans la rue sans attestation. Je pense qu'il y aura aussi des confinements qui peuvent durer avec des blessures de l'âme et de l'esprit contre lesquelles il faudra vraiment lutter. Parce que je pense que c'est un vrai danger, un énorme danger pour notre société.
Laure Hollandais, demain, moins de consommation, une autre façon de consommer, moins de déplacements.
Oui, je crois que cette crise nous révèle beaucoup de choses sur notre manière d'être, sur notre manière de, justement, précisément, vous venez de le dire, de consommer. On voit bien que nous sommes dans une spirale où nous avons besoin de consommer des biens qui ont fait 3-4 fois le tour de la planète, y compris dans notre assiette. Hein. On a oublié le commerçant du coin, on a oublié le paysan du coin pour lui préférer celui qui est au bout de la planète et qu'on paye très, très mal. Voilà. Donc je pense que tout ça nous révèle un peu notre folie. Hein. Parce que, encore une fois, nous sommes dans un espèce de tunnel où nous allions trop vite, où nous ne réfléchissions pas à notre manière de faire. Et je pense que, c'est ça, nous sommes dans une sorte de crise de la consommation. Hein. Et alors que il me semble que nous sommes appelés à passer de cette société de consommation à une société de consolation, pour encore une fois être avec les autres, être proche des autres, proche du paysan qui cultive pas loin de chez moi, proche aussi de celui qui fabrique aussi des vêtements pas loin de chez moi, sans être obligé d'aller au bout de la terre pour chercher mes habits, pour me vêtir avec des habits qui peut-être ont été fabriqués par des esclaves, des gens en tout cas dans situation d'esclavage, en situation vraiment de grave exploitation. Et je pense que tout cela doit nous pousser vraiment à réfléchir, parce qu'en fait, finalement, c'est par cet excès de consommation, ces excès de déplacement, quand on pense aussi à ce tourisme de masse qui, en fait, s'est répandu ces dernières années en utilisant l'avion n'importe comment, n'importe quand. Et voilà, bien sûr que cette situation est dramatique. Bien sûr que personne ne pouvait souhaiter ce qui nous arrive. Mais puisque cela nous est arrivé, comme toute crise, quelle qu'elle soit, dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre travail, voilà, quelle que soit la crise, elle nous invite à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à chercher le sens aussi des choses, et pour rebondir. Et il me semble que soit nous pouvons nous attrister profondément, et il y a de quoi, c'est vrai, quand on voit tous ces morts et ces personnes qui ont tellement souffert de cette situation, mais aussi on peut regarder avec espérance l'avenir. Et je crois que nous devons chercher à travers cette crise les éléments d'une nouvelle vision.
Voilà. D'une société de mesure, de la mesure.
Bien sûr, bien sûr.
Pour conclure, Laurent Landette, une société de la mesure, et je reprendrai votre expression, de la consolation.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que nous pouvons entrer dans cette espérance-là, et peut-être vous quitter avec une parole de l'écriture, sans vision, le peuple est sans frein. Voilà. Je crois que nous sommes appelés à acquérir et à recevoir, et je vois au Collège des Bernardins, c'est ce que nous essayons de travailler ensemble, en essayant de chercher ce qui est juste et bon, chercher une vision pour ce monde, pour mieux le servir, pour mieux l'aimer, pour mieux l'habiter, pour mieux le rendre habitable, et pour que l'homme soit vraiment au cœur de tout.
Je vous remercie, Laurent Landette. Je vous remercie pour cette réflexion. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Nous sommes convaincus que ces temps redoutables sont une occasion de repenser les fondements de la société avec des entreprises responsables pour sortir par le haut de cette crise. C'était le message des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens et d'éthique, un groupe de réflexion patronale qui veut promouvoir une nouvelle éthique du capitalisme à l'occasion de la fête du travail le 1er mai. Avant d'écouter son président Philippe Royer, quelques mots sur le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Créé en 1926, les EDC rassemblent 3200 dirigeants d'entreprises de toute taille en France et dans le monde, avec pour vocation la promotion du bien commun dans la ligne de la pensée sociale chrétienne. Son président, Philippe Royer, 54 ans, est le directeur du groupe coopératif Synergie, une société de conseil et de services en agriculture basée à Laval, en Mayenne. Philippe Royer, bonjour.
Bonjour.
J'ai repris une de vos phrases du communiqué du 1er mai. Bon, vous êtes volontariste, énergique comme on peut l'être dans le monde de l'entreprise, mais aussi tout à fait lucide sur la menace d'une crise économique majeure. Et vous dites que c'est un devoir d'alerte.
Oui, c'est un devoir d'alerte parce que nous sommes face à un double tsunami. Derrière le tsunami sanitaire, on a un tsunami économique possible. Et donc, on a pensé effectivement qu'il y avait un devoir d'alerte et un devoir aussi d'analyse et de compréhension du monde. Nous pensons au niveau des EDC que nous sommes dans un changement systémique, dans une mutation assez profonde, mutation économique, digitale, sociétale, environnementale, qui fait que depuis la crise financière de 2008, en passant par la crise du réchauffement climatique, on enchaîne maintenant avec une crise sanitaire, puis économique et peut-être politique. Et on pense que nous rentrons vers la préparation du monde d'après, qu'on est attaché à construire, mais que cette préparation du monde d'après va prendre un long pendant. C'est-à-dire que nous pensons qu'entre 2020 et 2030, on va être à la fois dans l'émergence de choses nouvelles dont on va se réjouir, mais également dans l'effondrement de choses anciennes qui peuvent être douloureuses sur le plan économique et sur le plan de l'emploi.
Douloureuse, ça veut dire... Est-ce que vous craignez une crise comme celle de 29 avec des soupes populaires?
Et oui, alors on espère, nous, pourquoi on a alerté, pourquoi on s'est dit qu'il fallait se lever et se mettre en mouvement, c'est que justement, on n'a pas envie de reconstruire sur un champ de ruines dans lequel ça nous amènerait à la soupe populaire. Nous, on se dit qu'il faut absolument faire émerger cette économie du bien commun le plus vite possible, et puis opérer à la mutation d'un secteur d'activité. Il est clair que, par exemple, le transport aérien ne pourra pas être traité de la même manière et qu'il y aura peut-être demain moins de transport aérien avec des billets d'avion plus chers. Mais c'est peut-être bon pour l'écologie. Donc, il va falloir qu'on apprenne tous à revisiter nos modèles. Et nous, dans cette approche-là, on défend une économie du bien commun, dans lequel on garde l'esprit d'entreprendre, dans lequel on garde l'espérance de la co-création et de l'innovation, mais dans lequel l'inclusion des plus fragiles et le respect de la planète ne sont plus des options, mais sont des parties prenantes de ce nouveau modèle.
Oui, d'ailleurs, effectivement, vous, à propos des assises nationales que vous deviez tenir au mois de mars, oui. Ce sont des assises tous les 2 ans, elles sont reportées en octobre,
à Montpellier.
Hein, c'est bien ça. Oui. Eh bien, le thème, c'est « Entreprenons pour la maison commune ». Effectivement, là, on pense tout à fait à l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui disait « tout est lié ». Et là, on le voit bien, tout est lié, du pangolin à...
Elle est prophétique et elle s'applique dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on a eu une économie linéaire. Nous sommes en train de passer au circulaire. Et on retrouve effectivement le « tout est lié » de Laudato Si. Et dans ce Tout est lié. Bonne nouvelle, on reprend en compte le fait qu'on est dans une interdépendance et que cette interdépendance doit générer des solidarités. Elle doit générer à redévelopper des choses en local, mais en même temps assurer des liens avec les pays pour assurer le commerce. Le lien de commerce a été toujours facteur de paix, il ne faut pas l'oublier.
Facteur d'échange. Pour vous, je dirais que la période, finalement, même si elle est difficile pour l'agriculture, elle montre en tous les cas l'aspect indispensable, bénéfique de cette agriculture de proximité.
On prend conscience que l'agriculture, mais qu'elle également les médicaments, que d'autres secteurs stratégiques, on a réussi, je veux dire, sans s'en rendre compte, à laisser partir des champs stratégiques de France et d'Europe. Et donc la situation peut se poser de la même manière sur d'autres continents. Donc on croit qu'on va devoir opérer à une relocalisation un certain nombre d'activités, et puis après des maintiens d'échanges tels que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que le but n'est pas non plus de rentrer dans le repli sur soi identitariste. Notre enjeu, c'est d'avoir une identité assumée, des productions locales pour diminuer les empreintes carbone, mais en même temps trouver ces accords avec d'autres pays qui ont besoin de se développer et on ne doit pas, la France et l'Europe ne doivent pas se replier sur eux.
Et la relocalisation de l'industrie, est-ce que ça passe aussi par une industrie verte ?
Oui, pour nous, ça semble indispensable. On partage le centre des jeunes dirigeants, le réseau Entreprendre et plusieurs acteurs, les dirigeants responsables de l'Ouest, viennent de publier une tribune sur le sujet qu'on soutient dans l'esprit parce qu'on pense que l'économie verte est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un modèle dans lequel on génère une augmentation du gaz à effet de serre tel qu'on va le vivre dans les années. Sans rien changer, dans les années à venir, on va avoir 1,5 point d'augmentation. Et donc, ça veut dire qu'il est absolument nécessaire, et moi qui travaille dans le secteur agricole, de repenser le secteur agricole à sa contribution à apporter, parce que l'agriculture comme la forêt sont des espaces où on peut stocker du carbone. Donc, il est absolument important de penser les modèles agricoles de demain différemment. Et il faut absolument que dans tous les secteurs, on recompose dans ce tout est lié. Voilà, et ça nous amènera aussi peut-être à revoir des modes de consommation. Est-ce qu'une vie réussie était une vie où on a beaucoup surconsommé ? Est-ce que c'est une vie réussie parce qu'on aurait été aux Maldives ou dans quel pays du monde ? Nous, on pense que non, une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on a été utile, on a déployé ses talents et puis on a développé aussi une part de gratuité.
Oui, en fait, apprendre, en quelque sorte, Philippe Royer, la sobriété heureuse.
Oui, la sobriété heureuse est quelque chose. Nous, au niveau des EDC, on ne croit pas forcément on ne pense pas que face à un modèle de croissance qui a peut-être été excessif, la solution sera un modèle de décroissance. On pense que la solution, elle sera anthropologique. Il faut reprendre nos fondamentaux en disant, mais qu'est-ce que le progrès pour l'homme ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? En quoi l'argent, la technologie doivent être au service de l'homme ? Donc on ne pense pas que le combat soit entre croissance et décroissance. Le combat, il est sur le progrès. Et la sobriété heureuse fait partie des choses qui nous semblent être des approches intéressantes à porter et à vivre, bien sûr.
Je vous remercie, Philippe Royer. Je rappelle que vous êtes le président des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et que vous tiendrez vos assises à Montpellier en octobre prochain. Merci.
Merci.
Compte tenu des circonstances, les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en font l'objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens doivent être assouplies. Il faut permettre à tous les États de répondre aux besoins les plus importants du moment, en réduisant, voire en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres.
dimanche 12 avril, dimanche de Pâques, lors de sa bénédiction Urbi et Orbi, dans une basilique Saint-Pierre vide, le pape François demande l'annulation de la dette des pays les plus pauvres frappés par le coronavirus. Deux semaines avant, le dimanche 29 mars, lors de l'Angélus, François avait plaidé pour un cessez-le-feu universel. Le pape s'est donc exprimé fort dans cette crise dans laquelle il voit un appel à une conversion de nos modes de vie, comme il l'avait fait il y a 5 ans dans son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la terre, la sauvegarde de notre maison commune. Et ce constat, on s'en souvient, tout est lié. Avec nous en ligne de Rome, le correspondant permanent de RFI au Vatican, Éric Sénanc. Bonjour Éric.
Bonjour Geneviève.
Retour avec vous donc sur ces prises de parole du pape pendant cette crise sur la paix et sur la dette.
C'est ça. Alors on a entendu dans son message de Pâques, le pape François a donc eu des mots assez forts pour rappeler l'importance d'annuler la dette des pays plus pauvres. Il s'inscrit vraiment dans une tradition importante de l'Église. On pourrait la faire remonter déjà dès les années 60, puisque Paul VI, son prédécesseur, dans l'encyclique Populorum Progresso, avait déjà évoqué le développement des peuples et de la dette. On se souvient aussi que le Saint-Siège, à travers la voix des autres papes, Jean-Paul II en particulier, avait fait de la dette et de l'annulation l'un des thèmes forts. En 2000 notamment, lors de l'année jubilaire, le pape polonais avait fait de cette annulation l'un de ses chevaux de bataille. Alors cet appel du pape a eu de l'écho, hein, puisque 48 heures après ses propos de Pâques, le président français Emmanuel Macron a lui-même évoqué cette annulation de la dette, ou en tout cas cette suspension. Et puis le 15 avril, donc 3 jours après le message de François, les pays du G20, les 20 pays les plus riches, avaient décidé d'un moratoire d'un an de cette dette pour les pays les plus pauvres. Je crois qu'il y a 77 pays qui sont concernés. Puis alors, vous l'avez évoqué, il y a évidemment l'idée de cette paix universelle qui est toujours très chère aux yeux du pape. Le pape François l'a reprise du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui lui-même avait évoqué cette trêve universelle. Il l'a rappelé plusieurs fois depuis, lors notamment d'homélies de ses messes matinales dans la chapelle Sainte-Marthe. Pour le pape François, évidemment, l'épidémie, la pandémie de coronavirus montre qu'il y a bien d'autres priorités que de faire continuer le bruit des armes.
Et puis, Éric Sénanc, qu'il y a le dicastère pour le service du développement humain intégral, créé toute pièce par le pape François, qui a demandé à ce dicastère composé de plusieurs groupes de réfléchir précisément à l'après-coronavirus.
Oui, absolument. Il a demandé à ce dicastère, cette institution du Saint-Siège, de réfléchir. Et 5 groupes, très concrètement, ont été créés. Il y en a un, notamment, qui est chargé vraiment de penser l'après, le monde d'après, post-Covid-19, en particulier dans les secteurs de l'environnement, de l'économie, du travail, de la santé, de la politique. L'idée étant de construire un peu une nouvelle conscience, un nouveau paradigme, ça c'est les mots employés ici au Saint-Siège, pour répondre de manière vraiment authentique et crédible au monde de l'après-épidémie.
Quelques mots, Éric Sénanc, pour terminer sur le réseau Caritas à travers le monde, Caritas Internationalis, qui est un grand réseau d'aide aux populations. Est-ce que le pape a demandé à réactiver ce réseau avec le coronavirus?
Oui, absolument. Il a demandé d'ailleurs à Caritas Internationalis, hein, qui est un peu le bras humanitaire du Saint-Siège dans le monde, d'être vraiment un des rouages essentiels, hein, de cette réflexion. Alors, Caritas Internationalis coordonne un réseau de plus de 160 Caritas locales dans le monde entier, et beaucoup se sont déjà mobilisés, notamment dans les pays du Sud, par exemple en Mauritanie ou en République démocratique du Congo, hein, des pays d'Afrique qui, certes, sont moins touchés par le virus, mais sont déjà très affaiblis socialement et sanitairement. Les Caritas locales distribuent des colis alimentaires, mais aussi des premiers soins déjà pour lutter contre le virus. Bref, localement, il est important pour le Saint-Siège d'être présent dans cette urgence d'abord de l'épidémie et évidemment dans l'après, quand ces sociétés seront fortement déséquilibrées par l'épidémie et ses conséquences.
Merci Éric Sénanc. Je rappelle que vous êtes le correspondant permanent de RFI au Vatican. Merci. En 2019, Jean-François Bensahel publiait chez Odile Jacob « Affronter le monde nouveau », épître à Paul et à nos contemporains. Pour le président de la synagogue Copernic à Paris, co-président du judaïsme en mouvement, acteur engagé du dialogue interreligieux, notre monde vit des temps messianiques, comme au temps de Paul, l'apôtre des chrétiens, le Shaul des juifs converti au christianisme. Ces temps messianiques aujourd'hui, ce sont les migrations généralisées, la dissolution des frontières, la confusion des civilisations et des cultures, l'avènement de l'homo numericus, de l'intelligence artificielle, mais aussi une humanité déboussolée qui a du mal à transmettre la beauté du passé et qui est en faillite spirituelle. Jean-François Benzel, bonjour.
Bonjour.
Pas de traces de coronavirus dans ce diagnostic, puisque nous étions à l'automne. Est-ce que selon vous, ce diagnostic que vous faites de ce temps messianique que nous traversons, est-ce que ce diagnostic est totalement bousculé par le coronavirus ?
Non, je crois au contraire qu'il n'est que renforcé. Quand le livre est sorti, je faisais référence à la montagne de risques que nous avions devant nous et que nous cherchions à mettre un peu sous le tapis, c'est-à-dire à ne pas en prendre vraiment conscience, qu'il s'agisse du risque écologique, de risque technologique, de risque lié à toutes les grandes migrations possibles. Le risque sanitaire, il s'inscrit dans cette montagne de risques. La seule différence qu'il souligne, et c'est pour ça que moi je suis toujours mal à l'aise dans les discussions sur le monde d'après sera-t-il différent du monde d'avant, parce que ce qui compte, c'est la conscience des risques. C'est ça. Et ce que le coronavirus montre, c'est que nous sommes obligés maintenant d'avoir conscience des risques. Et donc la question, c'est est-ce que cette conscience des risques, elle va durer, ou est-ce qu'on fera comme avant, c'est ça le sujet. Et si on n'a pas envie que ça redevienne à l'inconscience d'avant, alors que faut-il faire ?
La conscience du risque, donc.
Disons que, parce que nous savions tout cela. Nous savions, nous connaissions tous les risques écologiques, tous ces risques, nous les connaissions, même les risques sanitaires, nous savions qu'ils existaient. Pourtant, nous faisions comme si nous continuions à marcher par une belle journée ensoleillée sur un pont traversant, pour ceux qui habitent Paris, la Seine ou en bord de mer, comme si rien ne se passait, comme si on allait pouvoir continuer à vivre sans se soucier de ces risques-là. La crise sanitaire, le coronavirus, ça nous rappelle de manière aiguë que ce n'est plus possible. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette crise, on se rend compte qu'il y a le nombre de personnes qui sont des acteurs de cette prise de conscience est de plus en plus important. On se rend compte que les soignants ont un rôle majeur. Heureusement qu'ils sont là. Pourtant, avant, tout se passe comme si on avait un peu oublié la façon dont ils nous étaient aussi utiles, aussi indispensables. C'est vrai pour les professeurs, c'est vrai pour un certain nombre de catégories de la population qui sont au cœur de cette prise de conscience.
Oui, on revient donc, aux fondamentaux.
Exactement, c'est exactement ça. Je trouve que c'est une très bonne formule. Nous avons la possibilité de revenir à nos fondamentaux, aux fondamentaux de la civilisation humaine, et pour le meilleur. Je ne suis pas prophète, c'est-à-dire que ça va dépendre de la façon dont le quotidien, chacun de nous, saura se souvenir de ce qui lui est arrivé, et se dira, mais je suis responsable du monde, de l'ensemble du monde. Je suis responsable de l'ensemble du monde aujourd'hui et du monde à venir.
Jean-François Benzel, vous mettez en parallèle deux temps messianiques. Le temps de Paul, hein, dont on va parler, ce choix de Paul quand même, il faut effectivement revenir dessus. Et puis ce temps messianique que vous venez de décrire. Pourquoi avoir mis en parallèle ces deux moments historiques ?
Je me suis rendu compte en étudiant les lettres de Paul, et si j'ai étudié les lettres de Paul, c'est parce que je suis un passionné du dialogue judéo-chrétien, et que dans tout dialogue judéo-chrétien, autant si concernant la personne de Jésus, tout le monde est d'accord sur le fait que c'était un juif pratiquant qui avait du souci pour son peuple, il n'y a plus de discussion possible là-dessus. En revanche, pour Paul, on avait une incertitude. Or, Paul joue un rôle fondamental dans la genèse du christianisme.
Et Paul est haï par certains, vous-même d'ailleurs, vous le dites au début de votre livre.
Haïssait
Paul.
Ah bah oui, parce que moi j'avais une image de Paul qui fait que je ne pouvais que le haïr.
Le converti zélé.
Ah oui, oui, le convertisseur, le père de la théorie de la substitution, du fait que Israël, comme il dit, les Juifs n'avaient plus part du tout à la révélation, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'image que j'avais.
Pourtant, le terreau de l'antijudaïsme.
Le terreau complet de l'antijudaïsme. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faut que j'aille quand même étudier et voir un peu plus clair. Et j'ai découvert, en tout cas, c'est ma lecture, un Paul qui, en fait, est tout à fait différent. Ce Paul différent, il nous est très utile pour le temps contemporain, pour ce que nous vivons. Pourquoi ? Paul, lui, il parcourt l'Empire romain, c'est-à-dire c'était l'humanité de l'époque. il parcourt l'Empire romain et il veut expliquer aux paysans en Galatie, en Grèce, un peu partout, il veut leur expliquer, il leur dit, mais vous savez, nous sommes tous d'une seule humanité, nous sommes tous pris dans une seule aventure. Dans une seule aventure humaine, qui est aussi une aventure spirituelle, une aventure messianique, puisqu'il dit à ceux qui ne sont pas juifs, globalement, puisque c'est à eux qu'il parle, il leur dit, nous sommes tous dans cette aventure, nous sommes tous capables de nous relier à Dieu, il le dit très clairement dans la première épître aux Thessaloniciens, nous sommes tous capables de nous relier à Dieu en passant par la foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit, c'est son message. Et donc l'obsession de Paul, c'est l'unité de l'humanité. Comment faire en sorte pour que nous soyons tous pris dans une seule aventure, nous nous sentions tous responsables de cette aventure, de cette histoire universelle. C'est ça que Paul apporte. Il apporte en tant que juif d'ailleurs, puisque les juifs ont la conscience de cette histoire universelle. Mais il apporte au monde romain, puisque c'était ça à l'époque, cette conscience de l'histoire universelle, d'une humanité prise dans une même histoire où chacun est responsable de tous.
Dans la même barque.
On est tous dans la même barque. Et aujourd'hui, c'est bien ça le sujet aussi. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est est-ce que, et on le voit avec tous ces risques, c'est qu'en est-il encore de notre humanité? Avons-nous tous la conscience que nous sommes tous dans une seule humanité? Avons-nous tous la conscience que nous sommes tous pris dans une seule histoire universelle? Parce que si on ne gère pas bien ces risques, alors ce sera la guerre de tous contre tous. Et de l'humanité, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qui est important, c'est pour ça que le moment Paul et le moment contemporain ont des résonances très fortes. La question que Paul nous posait quand il parcourait l'Empire romain et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est la même, c'est qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous avons en commun?
Mais alors, Jean-François Wenzel, on peut dire que la mondialisation pourrait répondre à cette question. Nous n'avons jamais été aussi proches géographiquement, avec les avions qu'on pouvait effectivement prendre très facilement, Internet, nous
oui,
sommes très
jamais
proches.
Aussi proche, ça dépend ce qu'on appelle proche, jamais aussi proche, c'est-à-dire, en fait, c'est l'expérience de Paul vécue de manière paroxystique à son apogée, c'est-à-dire, aujourd'hui, parce que Paul, finalement, il a rencontré peu de monde, il a rencontré combien de personnes, même par ses lettres, 10 000, 20 000 maximum, aujourd'hui c'est différent, nous nous rencontrons tous, tout le temps. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est paroxystique. Mais est-ce que l'on se rencontre vraiment? Est-ce qu'une connexion, ça vaut une relation? Est-ce que... C'est ça l'enjeu. C'est la mondialisation, elle nous met en contact les uns des autres, mais est-ce qu'elle nous donne la conscience d'un commun, ou plutôt, est-ce qu'elle ne nous fait pas naturellement d'abord percevoir à quel point nous sommes tous différents? À tel point qu'on en oublierait le commun. Parce que plus on se rencontre sans réflexion, sans médiation, sans prise de recul, plus on a le sentiment que ou on se rencontre très superficiellement, ou alors qu'on est très différent. Quand vous arpentez le monde, vous voyez bien qu'il y a des différences. Et ce sont ces différences qui vous sautent à la figure. Et donc la question clé aujourd'hui, qui est la question urgente, question culturelle, question politique, question éthique, question morale, la question c'est, est-ce que malgré ces différences, ne devons-nous pas nous chercher l'unité du monde contemporain? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait que nous avons une humanité commune? C'est ça l'effort que nous devons faire. Et la mondialisation, elle met plutôt en évidence les différences, naturellement.
Alors précisément, Jean-François Wenzel, le coronavirus, ça devrait nous rapprocher, parce que là, on est tous dans la même barque, enfin, de façon différente, mais on est quand même dans la même barque.
En fait, nous redécouvrons que nous sommes tous mortels. Et qu'on ne peut plus mettre la mort sous le tapis.
Donc, ça, c'est pour les Occidentaux, pour les Occidentaux, oui.
Pour les Occidentaux, pour les Occidentaux. Nous redécouvrons que nous avons le commun de la finitude et de la mort. Voilà ce qui ne peut qu'être que dans notre conscience, et l'hédonisme contemporain, on en voit bien les limites, puisque précisément, on assiste à un retour du tragique. C'est dans ces moments-là de retour du tragique, c'est pour ça que c'est messianique, c'est pour ça qu'on sent bien que l'histoire est en train de se fabriquer, que le monde est en train peut-être de s'inventer avec une autre prise de conscience. On voit bien que l'enjeu, ça va être d'arriver à conjuguer la pluralité et l'unité de la condition humaine. Et c'est ça l'enjeu majeur. Parce qu'on a toujours tendance à penser selon les modalités du tout ou rien. C'est-à-dire tous semblables, Et ça, les grandes religions de l'humanité ont eu tendance à vouloir faire en sorte que nous soyons tous semblables. Les grandes religions, les grandes irreligions de l'humanité, les grandes idéologies d'ailleurs.
Oui, avec les conquêtes, hein, effectivement.
Les conquêtes, c'était tous semblables, oui. Ou tous différents, et la guerre de tous contre tous. La question clé, c'est la conscience du monde, la conscience de ce que nous vivons, je crois, nous impose profondément d'arriver à penser la pluralité, la diversité, sans les nier, mais aussi l'unité. L'unité du genre humain, l'unité de la condition humaine et l'unité du monde. Parce que nous sommes tous, il faut vraiment être aveugle et sourd, nous sommes tous dans une seule et même barque. Comme vous le dites, si justement le coronavirus le rappelle.
L'écologie aussi.
L'écologie aussi.
Vous parlez de, dans votre livre, Jean-François Bensahel, Affronter le monde nouveau, d'une faillite spirituelle.
Je crois que sans méditation, sans compréhension de ce qui peut nous réunir, et vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut une méditation, il ne faut pas en rester aux apparences. Il faut méditer ce qui peut nous réunir. Et méditer ce qui peut nous réunir, ben, ça a un rapport avec l'esprit, et donc ça a un rapport avec le spirituel. C'était la réponse de Paul. Paul a donné une réponse spirituelle à l'époque, puisqu'il a dit aux païens du monde romain, gréco-romain, il leur a dit, vous êtes tous greffés sur Dieu, sur le Dieu d'Israël, par la foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'il leur a dit. Aujourd'hui, effectivement, toutes ces crises se doublent d'une crise spirituelle où globalement, eh bien, on ne se sent plus les uns, nous n'avons plus la conviction d'un devenir commun. Nous n'avons plus la conviction de ce qui nous relie les uns les autres. Et donc c'est la raison, et d'ailleurs on le voit très bien, le monde, le matérialisme a effacé tout autre type de préoccupations, et notamment les préoccupations de nature spirituelle, c'est-à-dire la conscience de ce qui nous relie. Je crois que c'est ça la dimension spirituelle, c'est vivre avec la conscience dans l'esprit, dans le cœur, de ce qui nous relie malgré nos différences, malgré la pluralité des hommes et des femmes de ce temps. Et donc oui, je pense qu'on se sortira par une... Si chacun de nous refait sienne la dimension spirituelle, c'est-à-dire quelle que soit sa religion d'ailleurs, hein, mais c'est savoir que nous sommes dans ce devenir commun, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, je crois que les religions monothéismes, elles n'en ont pas l'exclusive, je pense qu'elles doivent penser Dieu sur le mode de la fraternité.
Oui, d'ailleurs.
C'est ça la dimension spirituelle à laquelle je crois et que je crois nécessaire.
Et d'ailleurs, c'est la dernière phrase, Jean-François Bensahel, de votre livre, La fraternité ou l'autre nom de Dieu.
Oui, je le crois profondément. C'est ça qu'il faut redécouvrir. La fraternité, ça suppose la différence, mais ça suppose d'avoir un père et une mère commun, ça suppose d'avoir une tradition commune, ça suppose d'avoir un projet commun. Et donc je crois profondément que les religions monothéistes, elles peuvent arriver à se mettre d'accord sur le fait que la fraternité, c'est l'autre nom de Dieu.
Je vous remercie Jean-François Bensahel, je rappelle donc le titre de votre livre « Affronter le monde nouveau, épître à Paul et à nos contemporains » et c'est publié chez Odile Jacob. Merci.
Merci beaucoup.
Frilinde pour Eve,
la crise sanitaire du Covid-19 a privé les familles d'obsèques élargies. Pas plus de 20 personnes étaient autorisées. Allonger aussi l'attente des inhumations et pour les musulmans. C'est non seulement poser la question de la toilette funéraire interdite pour d'évidentes raisons de propagation du virus, mais aussi celle des carrés musulmans. Ces espaces dans les cimetières communaux dédiés aux musulmans qui peuvent enterrer leurs défunts selon le rite islamique, c'est-à-dire en direction de la Mecque. Question rendue d'autant plus brûlante par l'impossibilité pour les familles d'envoyer les corps de leurs défunts dans leur pays d'origine. Un souhait majoritairement exprimé par la vieille génération, celle venue travailler en France dans les années 70. Pour évoquer cette question, avec nous en ligne Didier Lesky, qui fut directeur du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. Ce spécialiste de la laïcité est également l'auteur du livre « Misère » au pluriel de l'islam de France, paru en 2017 aux éditions du Cerf et qui vient de publier dans « Tracts de crise » chez Gallimard, un rappel historique sur cette question des cimetières. Didier Leschi, bonjour.
Bonjour.
Enterrer ses morts dans leur diversité n'a jamais été chose simple, écrivez-vous. Même dans la mort, la séparation religieuse a longtemps existé et on peut parler de domination des cultes sur la mort.
Oui, tout à fait. Pendant très longtemps, on a été obligé de séparer les cimetières et ou de séparer les sépultures en fonction des confessions dans les cimetières. C'est ce qu'on a appelé les carrés confessionnels et qu'on continue à appeler comme ça et qui sont sur le plan juridique terminés depuis 1881 et 1884, c'est-à-dire à partir du moment où on a considéré qu'il ne devait pas y avoir de séparation entre les cultes dans la mort.
Ça veut dire séparation, ça veut dire pas de murets, pas de haies, rien
oui,
de visible.
On avait des murets avec des entrées séparées, puisqu'il arrivait très souvent qu'il y ait même des affrontements entre catholiques et protestants, puisque c'était ça le cœur de la confrontation religieuse en France au moment des inhumations. Et pour mettre un terme à tout ça, on a estimé nécessaire d'arrêter ces séparations. En même temps, on a continué quand c'était possible, et en particulier pour les musulmans à partir de 1975, à organiser des regroupements confessionnels dans les cimetières. C'est le maire qui peut le faire, qu'on a continué à appeler carré, mais le mot n'est pas tout à fait adapté puisqu'il ne s'agit pas là de lieux fermés, si vous voulez. Il s'agissait d'abord pour des questions, je dirais, physiques, d'avoir des alignements de corps avec la face tournée vers la Mecque, mais ce n'était en aucun cas la volonté de séparer les défunts musulmans des autres.
Alors cela veut donc dire aujourd'hui, effectivement, cette question des carrés musulmans qui est brûlante, cela veut dire aujourd'hui qu'un musulman pourrait être enterré donc au milieu de non-musulmans ?
Oui, et du reste ça existe déjà. Je rappelle que avant 1975, et pour répondre aux prescriptions religieuses qui est musulmane, qui veut qu'on soit enterré très très vite, eh bien on faisait comme les autres cultes, c'est-à-dire on était enterré là où il y avait de la place. La seule demande et contrainte, je dirais, religieuse, étant d'avoir la face tournée vers la Mecque, mais pas nécessairement d'avoir son voisin de la même confession que soi. Et la question du voisinage, entre guillemets, dans la mort, s'est d'autant plus posée ces dernières années qu'il existe en France des couples mixtes et que la volonté des défunts ne peut pas être contrecarrée par une autorité religieuse qui dirait si monsieur ou madame n'était pas musulmane, elle n'a pas le droit d'être enterrée à côté de son mari ou de son compagnon.
Alors en 1975, alors je ne sais pas si on peut parler de circulaire, hein, c'est ça, le ministère de l'Intérieur,
Oui, il y a eu deux circulaires importantes qui disaient au maire, dans le cadre de votre pouvoir de police, vous devez désigner le lieu d'inhumation et rien ne vous interdit d'organiser un regroupement de tombes. Et ça se fait du reste aux alentours de Paris. Il y a un cimetière qui s'appelle le cimetière de Thiers, qui est sans doute un des plus grands cimetières européens, avec un espace musulman qui est même, je dirais, fractionné entre les différentes obédiences et même parfois nationalités, chiites, sunnites, et puis on peut avoir d'autres types de regroupements.
Alors Didier Leschi, actuellement la question qui s'est posée, hein, c'est évidemment une augmentation de la mortalité, et puis ces familles qui ne pouvaient pas envoyer le corps de leurs défunts dans leur pays d'origine, le Maroc, l'Algérie, etc. Et là-dessus, vous menez une réflexion en disant peut-être qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir sur cette question du rapatriement des corps.
Oui, bien sûr, parce que pour les enfants qui sont nés ici, pour les familles, même pour les personnes qui ont vécu très longtemps, qui ont travaillé, qui ont construit leur vie en France, l'idée que le corps ne soit plus là est quand même inscrire une rupture très, très forte avec en particulier ses proches et ses enfants. Mais surtout, la question du rapatriement des corps, elle s'est développée en particulier à partir des années 80, quand ont baissé considérablement les coûts du transport aérien. Je veux dire que par là, que dans les années 50, où le coût d'un rapatriement était extrêmement élevé, la question du rapatriement ne se posait pas. Et il s'est installé un marché d'autant plus florissant, d'une certaine manière, que les coûts de transport ont considérablement diminué et il n'y a pas d'obligation à dire qu'on doit absolument être enterré dans le pays d'origine. Il y avait un souhait affectif des anciens, mais qui était un souhait qui correspondait à l'idée qu'ils avaient eue au moment de venir en France ou ailleurs, qui était qu'ils retourneraient dans le pays d'origine. Mais l'idée qu'il y aurait une obligation religieuse est fausse.
Oui, c'est plutôt d'ordre affectif, et vous parlez même d'un marché halal de la mort.
Oui, bien sûr, c'est ce que j'indique ce qui concerne des opérateurs et qui ont trouvé là un moyen de construire un marché pour répondre à une offre, à une demande. Ils ont constitué une offre qui était plus ou moins alléchante, avec des prix plus ou moins variés. Et puis, dans certains pays, des organismes bancaires qui ont mis en place des outils assurantiels. Vous cotisez tous les ans et à la fin, vous pouvez votre famille aura là un capital pour pouvoir rapatrier le corps. Et il y a certains États, je pense en particulier à la Turquie, qui ont une politique systématique de mise en place de rapatriement des corps avec la Turkish Airlines, mais qui correspond aussi et qui a été amplifié ces dernières années par la volonté du président Erdogan de dire l'intégration des Turcs dans les sociétés européennes est une atteinte à notre sentiment national. Il a même parfois utilisé des mots très forts puisqu'il parle d'une forme de génocide dès lors que les personnes d'origine turque sont intégrées dans les sociétés occidentales.
Ah oui, donc ça va dans le sens d'une non-intégration et d'une forme de séparatisme.
Absolument, et qui peut être utilisé par certains États. J'ajoute que les outils qui ont été mis en place, je pense en particulier au Maghreb et à la Turquie, pour les subsahariens, c'est un peu différent, il y a la volonté d'en faire aussi un instrument de contrôle, hein, de pression, d'encadrement. Des diasporas pour éviter leur intégration dans les pays d'immigration.
Alors donc, face à ce manque, hein, dans les carrés musulmans, qu'est-ce que vous conseillez et aux maires et, je dirais, et aux responsables musulmans?
Alors, bien évidemment, il n'y a pas que pour les... malheureusement, pour les défunts de confession musulmane, qu'il y a aujourd'hui des problèmes d'espace dans les cimetières et l'accroissement très important de la mort du nombre de défunts dans cette crise pose des problèmes, en particulier dans les zones urbaines comme Paris, Lyon, Marseille, etc. Donc, je dirais, on enterre là où on peut. Voilà. Mais l'idée que le rite musulman ne serait pas satisfait parce qu'on on serait enterré avec quelqu'un qui n'est pas de la même confession que soi, est une idée fausse. C'est un durcissement de la prescription religieuse à des fins de séparatisme. Je dirais que la seule prescription vraiment, c'est d'avoir la face tournée vers la Mecque, encore que, comme le dit le Coran, la face de Dieu se trouve partout, et donc même là, ça serait tout à fait discutable, mais disons que c'est une pratique ancienne et elle est tout à fait faisable, même si on n'est pas dans un espace où il n'y aurait que des musulmans.
Et ce que vous soulignez, pour conclure, Didier Lesky, c'est que le Covid-19 a largement accru le sentiment que nous avons tous d'appartenir à une commune humanité.
Absolument, c'est à la fois le drame et la triste réalité, c'est que le virus ne connaît pas de nationalité, il frappe les personnes, je dirais, indépendamment de leur nationalité ou de leur condition sociale.
Ou de leur religion.
Et bien sûr, de leur religion, bien sûr.
Je vous remercie, Didier Lesky. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Ainsi s'achève Religion du Monde. Geneviève Delru, Laurent Salernou vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
La marche du monde.